Ces messieurs s'étaient rendus si hardis qu'ils tormentaient nos gens jusque dans les églises. Et un dimanche matin que le ministre Armand du Bordieu prêchait à la Grande Savoie, c'est le nom de la principale église française, comme il était à peu près au milieu de son sermon, à des officiers du duc d'Aumont eut les révérences de crier tout haut « Tu en as menti !» et se sauva au plus tôt. Car cette insolence émut tellement le peuple qu'on l'aurait mis en pièces si on l'avait tenu. Une autre fois, ce que j'ai vu de mes propres yeux, un officier de cet ambassadeur, se trouvant au café français proche la Bourse de Londres, disait pique-pendre des réfugiés. Quelqu'un lui ayant représenté qu'il devait être plus circonspect dans ses discours, puisque par la grâce de Dieu, il se trouvait dans un pays de liberté et à l'abri des persécutions de la France. Cet insolent reprit la parole et dit fort brutalement « Croyez-moi, messieurs, le roi de France a les bras assez longs pour vous atteindre au-delà des mers, et j'espère que vous le sentirez bientôt. » Mais un négociant de Londres, nommé Monsieur Banal, bon réfugié, se trouvant à portée de faire éclater sa colère contre cet officier, lui appliqua un des plus rudes soufflets que j'ai jamais vu donner en lui disant « Ce bras qui n'est pas si long que celui de ton roi t'atteindra de plus près. » Cet officier voulut mettre l'épée à la main, mais tous les Français qui se trouvaient là se jetèrent sur lui, lui donnèrent plusieurs coups et conclurent unanimement de jeter cet impertinent par les fenêtres d'un second étage, ce qui serait arrivé certainement sans la maîtresse du café qui vint supplier à main jointe qu'on le laissât sortir par la porte. On le fit en considération de cette femme, non sans l'avoir rossée d'importance et tout moulu de coups. Il courut emporter sa plainte à monsieur l'ambassadeur, qui, bien loin de le justifier, lui dit qu'il avait ce qu'il méritait de la part de ses réfugiés et qu'il méritait une seconde punition de la part du roi, qu'il n'entendait pas que ses officiers d'ambassade insultassent personne. Cet ambassadeur était bon naturellement et bon politique, mais quoi qu'il en soit, je suis persuadé que sa majesté très chrétienne aurait, de son côté, désapprouvé l'action de cet officier, aussi bien que de celui qui commit dans l'église de la Savoie le scandale que j'ai rapporté, et les en aurait fait punir. Mais que ne font pas les jésuites et ceux qui leur ressemblent? Ils ne cherchent qu'à nous persécuter dans les asiles même les plus sûrs. Qu'on juge par là avec quelle faveur ils nous ont traités lorsque nous étions en leur puissance. Je reprends ce qui me regarde pour finir ces mémoires avec l'année 1713, terme auquel j'ai promis au commencement de m'arrêter, n'ayant rien dans la suite de ma vie qui puisse intéresser mon lecteur, à qui je m'étais uniquement proposé de faire le récit des persécutions qu'on a exercées sur moi pour la religion, tant dans les prisons que sur les galères de France pendant les 13 années que j'y ai souffert. Ayant séjourné à Londres environ 2 mois et demi, et n'ayant plus rien qui m'y retint, j'en partis au mois de décembre avec l'approbation du marquis de Rochegude. Une partie de nos frères y resta pour solliciter auprès de la reine la délivrance de nos frères restants. J'arrivai en bonne santé à La Haye, où je fis rapport aux personnes qui s'y intéressaient de ce qui s'était passé à Londres, sans oublier les louanges que méritaient un nombre infini de bonnes âmes de cette grande ville, tant anglais de nation que français réfugiés, qui nous accueillirent tous d'une manière tout à fait chrétienne et charitable. Outre les divers présents des particuliers, le consistoire de l'église de Savoie nous défraya tous pendant notre séjour à Londres. Je m'arrêtai quelques semaines à La Haye. Monsieur le ministre Basnage m'en pria pour comparaître avec lui chez divers seigneurs qui sollicitaient pour nous obtenir une pension, laquelle leur haute puissance nous accordèrent peu de temps après avec beaucoup de bonté. Nous n'avions mérité ce bienfait par aucun endroit, et ce n'est qu'à leur charité chrétienne que nous le pouvons attribuer. En mon particulier, j'en conserve une reconnaissance au-dessus de toute expression, et en considérant cette générosité de leur haute puissance, je ne puis qu'admirer leur piété, leur zèle pour la gloire de Dieu et leur amour pour le prochain, qui les porte à se conformer constamment au saint précepte de faire du bien à tous, mais principalement aux domestiques de la foi. Dieu veuille être lui-même le rémunérateur de leurs vertus et combler jusqu'à la fin des siècles cette république de ses plus précieuses bénédictions.